Bonjour, ici Célia Héron, hôte et coproductrice du podcast Brise-Glace. Avant de vous laisser plonger dans notre toute nouvelle série audio, il n'y a qu'à m'expliquer, un mot pour vous signaler que les podcasts du temps se développent. Découvrez Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique, et bien d'autres encore sur la page letemps.ch/podcast. Et j'en profite pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement web et print sur la page letemps.ch/abonnement au pluriel. Bonne écoute!
Avant même qu'il soit enlevé, mon entourage élargi, qui savait que j'allais avoir un sein en moins, me disait « mais tu vas reconstruire ». Pour moi, ce n'était pas la question du moment. Moi, je voulais vivre, juste vivre.
Bienvenue dans la saison 2 de Brise-Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. On lui avait promis que, si elle ressentait une douleur, ça ne pouvait pas être un cancer. Pourtant, c'était bien ce qu'elle avait, un cancer du sein. De l'annonce du diagnostic à la mastectomie, en passant par le choix de la perruque et celui du maillot de bain, Manon raconte sa maladie, les mots qui blessent et les regards qui sauvent.
C'était un samedi matin, je m'en souviens bien, au mois de juin 2016. J'ai un de mes enfants qui, fortuitement, a posé sa tête juste où il fallait. Ça m'a fait mal. Je me suis tout de suite levée pour essayer d'aller palper l'endroit douloureux. Et là, j'ai senti quelque chose assez en profondeur, comme une petite boule qui ne bougeait pas trop. Et là, j'ai commencé à vraiment avoir plein de questions qui tournaient dans ma tête et un mauvais pressentiment. Je suis infirmière de métier, donc c'est vrai que j'ai tout de suite fait le lien. J'ai angoissé tout le week-end. Donc j'ai attendu le lundi matin pour téléphoner d'un côté à ma gynécologue et de l'autre côté à mon médecin généraliste. Et finalement, j'ai eu rapidement un rendez-vous le matin même chez mon médecin généraliste qui m'a adressé le lendemain matin pour faire une mammographie et un ultrason à l'hôpital. J'avais 36 ans. Quand je suis allée chez ma généraliste, et je lui ai dit « mais docteur, vous me promettez, s'il y a quelque chose, on y va, on fonce ». C'était cette peur de disparaître. Et là, elle m'a dit « ah, mais mettons pas la charrue avant les bœufs ». Je fais « oui, mais là non ». Enfin, moi, il faut que je vive, il n'y a pas d'autre solution. Elle a essayé de me rassurer en me disant « ah, mais je suis moi-même dans une famille à risque ». Et mon gynécologue m'a toujours dit qu'un cancer du sein ne faisait pas mal. Et là, c'est vrai que maintenant, je monte au plafond quand j'entends ce genre de choses, parce que c'est pas la seule qui m'ait dit ça durant la maladie. Et maintenant, elle, c'est clair qu'elle le dit plus non plus. Moi, heureusement que ça m'a fait mal, parce que je serais pas là pour pouvoir vous en parler aujourd'hui, à mon avis.
Quel rapport vous aviez avec votre corps à l'époque ?
Je dirais un bon rapport. Enfin, j'avais eu mes 3 enfants que je souhaitais avoir. Ma vie de famille, enfin voilà, était complète. Hein. C'était le nombre d'enfants que nous souhaitions avec mon mari. Mes seins ont servi, si je peux dire ainsi. J'ai allaité mes 3 enfants 11 mois, 13 et 13 mois. Donc voilà, c'était un choix personnel. Il me disait, bah tiens, cancer du sein. C'est pas un organe, c'est pas un membre non plus. Ça reste un sein, donc si c'est malade, il faut l'enlever parce que le jour où j'ai passé la mammographie, on voyait vaguement une glande qui était un peu plus grande que les autres, mais sans que ça soit très spécifique. Ça devait être complété par un ultrason et la radiologue qui m'a dit « oui, alors je suis dans une zone un peu grise, on fait une biopsie, comme ça on en a le cœur net. » Et là, je suis vraiment partie la boule au ventre pour revenir 4 heures plus tard pour faire cette biopsie. Et le lendemain, j'ai déjà reçu les résultats. Donc là, je me suis effondrée. Je me souviens encore. Enfin, c'était par téléphone parce que... Si la doctoresse m'avait convoquée à son cabinet, je savais que de toute façon c'était mauvais. Alors oui, normalement ça se fait pas par téléphone, mais c'est vrai qu'on avait aussi une relation assez franche avec mon médecin généraliste qui me connaissait depuis de longues dates. Et ça a permis vraiment de pouvoir faire avancer les choses rapidement, parce qu'elle a tout de suite pris rendez-vous avec un gynécologue qui opérait. pour que j'aille rendez-vous le lendemain chez lui.
Vous vous souvenez précisément de ce que vous vous êtes dit au moment où elle vous a passé ce coup de téléphone ? Vous étiez où ?
J'étais dans ma cuisine. C'était un mercredi à 11h45. J'allais chercher mes deux grands-enfants à 12h05 à l'école. J'accueillais un copain de mon fils que je devais emmener à un anniversaire. Enfin, ça a été une vague, enfin, un tsunami. Enfin, et j'avais mon petit dernier qui avait 3 ans et demi, qui était là, qui comprenait pas vraiment. Et puis, j'ai appelé mon mari. J'ai dit, ça va pas, c'est pas bon, il faut que tu reviennes. Enfin, j'étais pas bien. Et c'est vrai que il a tout de suite compris. Il a pris le train pour rentrer à la maison pour pouvoir s'occuper des enfants parce que moi j'étais comme coupée du monde hein, et pendant 10 jours à peu près j'étais dans un monde parallèle. J'avais l'impression que j'avais ces discussions, que je voyais ces médecins, enfin ça me coulait dessus sans vraiment avoir de possibilité de prendre le dessus. J'étais absente, j'avais pas l'impression que c'était à moi que ça arrivait mais que j'allais finalement me réveiller de ce cauchemar. On a attendu de voir le gynécologue le lendemain avec mon mari qui m'a accompagnée. Et là, on était dans un tel stress aussi que je ne sais pas si c'est une maladresse de sa part ou pas du médecin qui nous parle de reconstruction. Ah, mais de nos jours, on fait de magnifiques reconstructions. Et là, j'ai dit, mais c'était juste pas approprié à ce moment-là. Je me dis, comment il peut me dire un truc pareil ? Et je regardais mon mari qui était à côté de moi qui me dit... Je me sens pas bien et c'est vrai que je le regarde, il était gris, vert. J'ai dit, mais occupez-vous de lui, parce que c'était un choc. Très certainement, la peur de perdre sa femme, la mère de ses enfants. Là, bah, j'avais un peu plus d'informations ce jour-là. Donc on a mis au courant, moi, ma sœur, de mon côté, qui était là comme un soutien, enfin vraiment un bon soutien. Et mon mari a mis au courant sa maman. Pour nous soutenir. Et j'ai attendu le samedi matin. Entre deux, j'ai essayé de me renseigner avec la Ligue vaudoise contre le cancer, aussi à la bibliothèque pour aller trouver des livres appropriés, comment parler de ça à mes enfants qui avaient 8 ans, 3 ans et demi et 5 ans et demi. Et tout ce que j'ai pu trouver, c'était des trucs, mais juste affreux. Maman est partie au pays du cancer. Ça, c'est un livre que la bibliothèque m'avait mis de côté. J'ai dit, mais j'avais passé 3 pages de ce livre, mais j'étais en train de pleurer. Mon mari était en train de lire aussi ce livre le samedi matin. Et on me disait, mais on peut pas. Comment est-ce qu'on va annoncer ça aux enfants, parce que c'est vrai que j'avais arrêté de travailler tout d'un coup en quelques jours, que j'avais beaucoup de rendez-vous médicaux, donc il y avait d'autres personnes qui allaient garder les enfants, donc ils allaient forcément se poser des questions, et pour moi c'était très important qu'ils soient dans les premiers informés. Et finalement, bah, on a pris notre courage à deux mains, on les a convoqués au salon, et là je leur ai dit que dans le sein de maman, il y avait une petite boule rock'n'roll, parce que je ne savais pas trop comment dire ça autrement. Une petite boule rock'n'roll qui avait chanté du Johnny Hallyday, parce que mes enfants ne connaissaient pas Johnny, donc ça pouvait éventuellement faire peur de ne pas connaître quelque chose, mais qui avait chanté du Johnny Hallyday à la place de Louane, parce que Louane, c'est une chanteuse qu'ils apprécient. Et là, j'ai commencé à pleurer et un des trois m'a dit « Mais pourquoi tu pleures ?» Alors, le grand, je crois qu'il a compris sans vraiment comprendre. Il avait 8 ans et c'est vrai que ça faisait déjà une bonne année qu'il était un peu dans le schéma mort, perte des personnes qu'on aime. Donc, c'était déjà délicat. On avait perdu 2 personnes de la famille élargie, dont les amis qui étaient décédés l'année d'avant. Donc ça lui faisait peur, même que c'était des personnes âgées. Et le deuxième s'est mis à rigoler, il savait pas trop, je pense que c'était plutôt nerveux comme truc. On leur a dit que c'était pas contagieux, que c'était pas de leur faute non plus, que c'était la faute à pas de chance, mais que maman allait devoir passer des examens et puis qu'il y aurait des traitements et qu'on attendait de savoir ce que les docteurs allaient décider pour me soigner. J'ai pas osé parler du mot guérir à ce moment-là parce que je voulais pas leur promettre quelque chose que les médecins ne pouvaient pas promettre non plus. Une promesse est une promesse pour un enfant.
Est-ce que vous vous souvenez des premiers jours de traitement ?
Oui, j'ai commencé ça le premier jour des vacances scolaires, le 4 juillet 2016. J'étais dans cette salle d'attente et j'attendais. Enfin, il se passe 10 minutes, un quart d'heure, tout d'un coup on vient vous chercher. Et là, vous avez le trouillomètre à zéro, enfin, c'est horrible. Et heureusement que les infirmières ont été juste extraordinaires. C'est vrai que la semaine de traitement, il y a déjà le jour du traitement où vous n'êtes pas bien. Ensuite, j'ai passé 5 jours au lit, parce que sitôt que je sortais du lit, je courais aux toilettes. C'était pire qu'une gastro. Enfin, vraiment, vous avez ces nausées. Et puis, malgré tous les médicaments qu'on vous donne, ben, moi, ça n'a malheureusement pas fonctionné. Ça a été pire de fois en fois, je dirais, parce que la semaine de la chimio, vous n'êtes pas bien. La semaine suivante, il faut vous faire des injections pour remonter, booster la moelle osseuse. Et ensuite, vous avez enfin à peu près 8 jours où vous revivez et le dimanche soir, vous dites « Oh là là, demain j'y retourne, je serai de nouveau malade. » Et c'est vrai que c'est de pire en pire parce que comme si le corps, il se disait « Mais oh, on me renvoie de nouveau cette sauce, mais arrêtez !» Et ça a été difficile, donc tout l'été. Et ensuite, j'ai commencé avec le deuxième cycle de chimio et ça, c'était toutes les semaines. Alors, totalement différente. Hein. Ça a été vraiment des douleurs osseuses. Je mettais je ne sais pas combien de temps pour aller rechercher mes enfants à l'école, à pied. Je croisais des copines qui me disaient « ça va ?» Je disais « oui, ça va ». Mais c'est vrai qu'au lieu de faire 7-8 minutes, j'en faisais facilement le double, tellement j'avais mal partout et j'avais l'impression d'être une petite grand-mère. À ce moment-là, quand ils ont repris l'école, fin août 2016, j'avais déjà passé 3 cycles de chimio sur les 4 durant l'été. J'ai pleuré ce jour-là. Puis rien que d'y repenser, c'est dur. Mon petit dernier venait de fêter ses 4 ans, mais vu qu'il est du mois d'août, il allait commencer l'école un an après. Et je me disais, mais est-ce que l'année prochaine, je serai là pour faire sa rentrée scolaire ? Ouais, enfin, c'est dur. Parce que j'y tenais, j'étais là pour ces 2 grands frères et pour moi c'était inimaginable que je puisse disparaître. Là je pense que c'est motivant, mais d'un autre côté on entend tellement des gens par... c'est pas par méchanceté, hein, mais les gens qui disent « Ah mais il faut te battre, il faut avoir des pensées positives. » Oui mais ça veut dire quoi ? Toutes les personnes qui sont décédées à cause d'un cancer, parce qu'elles n'avaient pas assez de pensées positives. Je veux dire, c'est des gens qui se sont battus, enfin, j'en connais, et je me dis, on ne peut pas dire ça. On ne l'a pas voulu, ce cancer. C'est pas quelque chose qu'on prévoit. J'ai aussi entendu, « Ah, mais tu as eu tes enfants de manière rapprochée. » J'étais là, « Ouais, mais puis ça veut dire quoi ?» Je ne vois pas le rapport. Dans ce cas-là, je pourrais aussi dire, « Oui, mais je les ai allaités, mes enfants. » Donc, on entend aussi que quand on allaite, ça protège du cancer du sein. Je ne les ai pas allaités pour ça, loin de là. Hein. Mais je me dis, bah, heureusement que ça protège. Parce que vu le temps que j'ai passé entre les 3, ça m'a peut-être empêché de l'avoir 2-3 ans plus tôt. Je ne sais pas. Quand on me posait la question, comment ça va ? Ça va. À certaines personnes, vous leur dites, non, ça ne va pas. De toute façon, souvent, elles changent de sujet. Ou bien, vous n'avez pas envie d'en parler. Parce que vous n'avez pas envie de vous justifier. Je pense que c'est ça qui est aussi difficile. En plus, bah, d'où le reste, hein, la perte des cheveux, ça a été... C'est une copine coiffeuse, j'ai demandé, mais il faut que tu me rases la tête, parce que j'avais peur de me réveiller. Ça faisait déjà 2-3 matins que je regardais sur mon oreiller, sitôt que j'étais réveillée. Ça aussi, ça a été une sacrée épreuve, je dirais. Mais quand elle m'a rasé la tête, et puis elle me dit, « Waouh, ça te va bien ?» Elle dit, viens te voir dans le miroir. Je vais, oui, attends 2 secondes. Je me suis déjà regardée sur le petit miroir que j'avais devant moi. Et là, c'est vrai que les larmes, parce qu'on se dit, mais oh, c'est pas moi, c'est quoi cette tête ? C'est très difficile. Et après, c'est vrai qu'on en a un petit peu rigolé, donc elle m'a aussi aidée. Et elle m'a dit, ah, mais moi, je serai à ta place, je mettrai rien, ça te va super bien. Je fais, ouais, mais là, je suis pas encore prête pour ça, donc... La perruque, c'est vrai que j'étais pas très à l'aise, il faisait quand même assez chaud cet été-là, donc j'ai mis pas mal de foulards, de casquettes. À la maison, même la nuit, je mettais quand même un bonnet au début, parce que je me disais, mais si un de mes enfants qui a un cauchemar, qui m'appelle durant la nuit, j'ai pas envie qu'il ait oublié, et puis que ça soit un choc de voir maman sans ses cheveux. Alors que je pense que ça aurait été assez facile pour eux. Maman, je peux te voir sans ta perruque, sans tes foulards. Je dis oui, mais asseye-toi. On a plus peur que les enfants qui sont beaucoup plus spontanés. Après, j'ai gardé ce bonnet sur la tête parce que j'avais froid. Pas avoir ces cheveux qui touchent vos oreilles, enfin, je trouve que ça fait froid.
Et dans le regard de votre mari, par exemple, qu'est-ce que vous avez perçu à ce moment-là?
Heureusement, il était là. Ça l'a pas fait fuir, parce que c'est vrai que malheureusement, quand ce genre de situation arrive, ça devient vraiment très difficile dans les couples. Moi, j'avais espoir qu'avec tout ce qu'on avait parcouru déjà ensemble, ça faisait 18 ans qu'on était amoureux l'un de l'autre, que cet amour était plus fort que tout. Mais c'est clair, de me voir comme ça pas bien. C'est lui au début qui m'a dit « Ah ouais, mais la première fois, c'était moins difficile, tu n'avais pas eu de vomissements ?» Je fais « Oui, ils étaient tout proches. » Et c'est vrai que je pense que ça a été difficile pour lui de se dire « Mais waouh, puis la prochaine, comment est-ce qu'elle va réagir ?» Heureusement, il avait pu commencer à travailler un jour par semaine à la maison. Comme ça, ça aussi, ça a pu me soulager pour les enfants, parce que la vie de famille continue.
Vous mentionnez l'opération, donc à quel moment est-ce que le sujet a été non plus seulement évoqué comme une possibilité, mais acté et décidé?
Alors ça, on avait discuté fin du mois de juin avec l'oncologue. Il avait dit, ça sera 2 cycles de chimio de 2 fois 3 mois. C'était 3 à 5 semaines après la dernière chimio où l'opération allait avoir lieu. Mais au moment où je connaissais un petit peu... la date approximative de cette opération, c'est vrai que là, j'ai commencé à stresser. Parce que je savais que j'allais perdre un sein. Pour moi, il n'était pas question d'une tumérectomie. Je me disais, mais c'est malade, il faut enlever. Parce qu'on vous enlève un bout, une zone autour, pour être sûr de ne pas avoir quelques petites cellules, encore quelque chose qui reste. Tellement peur tout d'un coup que ça puisse repousser à quelque part d'autre si on n'enlève pas tout le sein. Et je me disais, c'est un sein, c'est pas un organe, c'est pas un membre.
C'est qu'un sein quelque part.
C'est qu'un sein et ça a servi. Je me dis, j'ai allaité mes enfants, c'est quand même difficile parce que vous vous projetez et puis vous dites, ça va faire quoi? On va m'enlever un sein, l'autre il sera là. On sent... je ne peux pas dire incomplète, mais pas symétrique en tout cas. Donc c'est ça, je pense, qui a été difficile. Et avant même qu'il soit enlevé, mon entourage élargi, qui savait que j'allais avoir un sein en moins, me disait « mais tu vas reconstruire ». Pour moi, ce n'était pas la question du moment. Moi, je voulais vivre, juste vivre. C'était minimum 14 mois. Où j'allais être Amazon, donc pas du tout une priorité. Vraiment, c'est malade, on enlève, on ampute ce sein. Et c'est vrai, de parler d'amputation, c'est très fort aussi, parce qu'on se dit, mais waouh, c'est dur.
Est-ce que vous vous souvenez de la réaction de votre mari au moment de la décision de cette mastectomie?
Alors, il était avec moi chez l'oncologue quand il a su. Et il avait bien compris aussi... que si on m'avait parlé d'une tumérectomie, que ça serait... Pour moi, c'était inenvisageable, quoique c'était vraiment direct la mastectomie. Mais de toute façon, il n'y avait pas le choix, il fallait enlever. Mais c'est vrai qu'après, je lui avais dit, mais si j'ai besoin d'aide pour refaire les pansements après, est-ce que tu vas pouvoir m'aider? Et là, il m'avait dit, ouais, je sais pas. Donc c'est vrai que je pense que c'est difficile... Parce que, le sein, ce symbole de la féminité qui m'avait toujours connue comme ça, avec une poitrine entière, je pense que d'avoir tout d'un coup un demi-thorax qui est balafré, si t'as pas envie de voir, je comprendrais. Enfin, c'est clair qu'il me préférait de toute façon m'avoir vivante avec un seul sein que morte avec mes deux seins. Hein. Enfin, il y a vraiment tout cet attrait et par rapport à cette féminité qui, je pense que c'est la société qui le véhicule. Je disais, mais ça va être difficile. J'ai dit, bah, si tu le vois, je préférerais que tu le vois et dans des conditions un peu moins trash, que tout d'un coup je sorte de la douche et que tu rentres dans la salle de bain en même temps, parce que moi, le lendemain de l'opération où une aide infirmière est venue vers moi et qui m'a dit « Maintenant, venez, je vous emmène à la douche. » Et là, je lui ai dit « Non, non, je vais faire ma toilette au lavabo. Ben, » je me sentais pas. Et elle me dit « Non, elle m'a poussée, elle était là. » Et je lui en remercie parce que ça m'a permis de passer par-dessus. Parce que quand je me suis levée, que je me suis vue devant le lavabo, avec ce gros pansement qui barrait la moitié de mon thorax et mon autre sein, ce phénomène de gravité qui a plu, enfin, c'était assez impressionnant de voir votre poitrine d'en haut sur votre lit d'hôpital. Bah oui, vous voyez qu'il manque un sein, mais quand vous êtes face au miroir et puis que vous vous voyez en reflet, là j'ai eu un choc. Et je voulais pas que mon mari il ait ce même choc.
Comment est-ce que, quand vous avez vécu pendant ces 14 mois, si j'ai bien compris, avec un sein,
oui.
Comment est-ce que vous avez vécu le regard des autres au-delà de votre mari?
Heureusement, on était au mois de janvier. J'avais beaucoup de jaquettes. Ça a été pratique. Je pouvais un peu cacher facilement ça. Et ensuite, bah, vous sortez de l'hôpital, vous avez une prothésiste qui vient vous trouver à l'hôpital, qui vous parle des possibilités de prothèses externes. Vous ressortez avec un petit coussinet en ouate. C'est pas terrible, hein. Puis elle est là, puis elle vous le met dans le soutien-gorge approprié. Mais tout d'un coup, bah, voilà, c'est trop léger, ça monte, vous avez une poitrine complètement asymétrique. Et ensuite, j'avais la radiothérapie. Donc, c'est vrai que là, j'ai pas pu mettre tout de suite la prothèse externe, donc une prothèse en silicone qui est insérée dans le même soutien-gorge, bah, voilà, à la place de ce coussinet en boîte. Là, vous devez vraiment attendre. Enfin, au niveau des brûlures de la radiothérapie, vous pouvez pas la mettre tout de suite. Et là, ça a été déjà un petit peu plus facile d'avoir cette prothèse parce qu'elle tenait au moins correctement en place. Enfin, voilà, c'était beaucoup plus lourd que ce petit coussinet en ouate. Et là, on était fin mars, et ma grosse angoisse à ce moment-là, c'était de trouver un maillot de bain. Et heureusement, ben, en allant dans un magasin spécialisé, j'ai trouvé ce qui me convenait. J'ai aussi acheté une prothèse exprès pour l'eau. Et à la maison, bah, assez souvent, j'avais rien. Enfin, voilà, j'avais juste peut-être mon t-shirt. Et puis, c'est vrai qu'au début, j'étais pas très à l'aise. Mais après, on s'y habitue. C'était juste tout d'un coup, s'il y avait quelqu'un qui sonnait à la porte ou que, si je voyais tout d'un coup les voisins, je faisais « Ah, je me suis penchée peut-être un peu trop. J'avais rien mis. J'étais en train d'attacher les chaussures à mon fils. Enfin, est-ce que le voisin a vu quelque chose ?» On devrait pas avoir à se soucier de ça. Parce que voilà, on est en vie, on en a bavé déjà depuis plusieurs mois. On devrait pas. Et puis, ah oui, bah, aussi avoir quelque chose sur la tête, ça c'était aussi un autre truc. Parce que ça toque à la porte, vous dites, ah, c'est qui, ah, vite, j'attrape quelque chose. Parce qu'à la maison, je mettais pas ma perruque. J'avais toujours un foulard qui traînait sur le bord de la chaise ou bien du canapé. Parce que vous n'avez pas envie de faire peur de l'autre côté. Puis ça pouvait être un copain qui vient sonner pour chercher les enfants pour aller jouer à l'extérieur. Donc c'est pas forcément que des adultes, ça peut être n'importe qui. Ça, c'était un gros moment de stress jusqu'à ce que je lâche la perruque. Donc vraiment, définitivement, il s'est passé de juillet jusqu'au printemps, jusqu'à avril.
Est-ce que la reconstruction, du coup, pour vous, ça a toujours été une évidence?
Alors, la reconstruction, au début, je me suis dit, bah oui, je veux reconstruire. Et pour moi, c'était important de me projeter. Parce que je savais aussi que c'était à peu près un an de délai d'attente. Malheureusement, ce genre de reconstruction, ça prend beaucoup de temps. Mais plus cette date opératoire approchait, et plus je me disais, mais waouh, Oh, est-ce que j'ai vraiment envie de me faire charcuter encore? Est-ce que j'en ai pas déjà suffisamment fait, suffisamment eu pour encore devoir passer sur la table opératoire? Et je savais que c'était 6 à 8 heures d'opération, donc c'est juste énorme. Et avec tout ce que ça comportait, parce que j'ai fait la technique du DIEP, donc D-I-E-P, c'est un lombo abdominal qui est prélevé, avec aussi une artère et une veine pour les reconnecter au niveau du sein. Et on vous prend de la graisse au niveau des poignées d'amour pour mettre sous la peau, pour reconstruire le volume. Et finalement, il s'est passé 6h30 d'opération. Je l'ai refait à ce moment-là, je me disais, mais pour qui et pourquoi tu refais cette construction? J'avais 38 ans. Je me disais, bon, ben, j'aurai 60-65 ans, je pense que je ne le referai pas. C'est ce que je m'étais dit. Et je me disais, bon, ben, je le fais pour mon mari, à 35%. 35% pour moi, quand même, parce que je serais contente de l'avoir fait, et 30% pour la société, justement pour pas qu'il y ait ce regard en voyant que quelqu'un puisse être choqué de voir un thorax pas conforme, je dirais. On sait qu'il va avoir encore deux étapes, le volume. 3-6 mois après, on vous fait une symétrisation, donc ça veut dire que le deuxième sein, enfin le sein, le vrai, qui reste, il est remonté, il est symétrisé pour avoir la même taille que le sein refait. Donc ça veut dire qu'il va se retrouver avec des cicatrices dessus, alors que jusqu'à présent, tout allait bien pour lui. Et puis, on recomble un petit peu le sein qui a été refait, parce qu'il faut reprendre un peu de la graisse au niveau des cuisses. Donc vous vous retrouvez avec des cuisses de toutes les couleurs. Mais vous savez que ça va pas durer, donc ça, heureusement, on est content quand c'est derrière. Et la troisième étape, c'est la construction du mamelon, vraiment au niveau du volume, comme une espèce de boutonnière, si je peux m'exprimer ainsi. Vous avez eu ces trois opérations en une année, et puis là vous dites stop, maintenant on arrête. Ma foi, tant pis si c'est pas parfait, mais j'en peux plus. Et la quatrième étape là est encore à faire, ça sera la pigmentation, mais par un tatouage. Mais ça, je me dis, ça sera la partie la plus facile.
Du mamelon.
Voilà, exactement. Et de l'aréole.
Quelle relation vous avez avec votre sein reconstruit aujourd'hui?
Alors, bon, bah, au niveau du toucher, je sens rien. Il faut faire très attention, pas se brûler sous la douche ou bien tout bêtement de se renverser quelque chose dessus. Enfin, c'est vrai que c'est comme mort. Sauf erreur, ça revient pas. Et étonnamment, je préfère mon faux sein que le vrai, qui est encore là, qui a été rafistolé deux fois. Donc c'est assez étrange, je trouve, ce rapport où je me dis « Ah ouais, bah celui-là, il est joli, puis l'autre, un peu plus difficile pour moi. »
On en parle quand même beaucoup plus que ces dernières décennies, j'ai l'impression, du cancer du sein. Est-ce qu'il y a certains aspects en particulier qui vous semblent encore tabous?
Peut-être les traitements qui suivent, l'hormonothérapie par exemple. Les gens, quand ils me disent « mais c'est bon, t'as fini les traitements », parce que pour eux, les traitements, c'était la chimio, la radiothérapie, la mastectomie. Puis éventuellement, ils pourraient mettre la reconstruction là-dedans, tant qu'on y est. Mais l'hormonothérapie, c'est vrai que je disais à mon oncologue il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai franchi tellement d'étapes que maintenant je me dis mais pourquoi je suis encore si fatiguée, pourquoi j'ai mal partout, pourquoi je pensais vraiment être mieux. Et là, quand on me répond mais madame, l'hormonothérapie c'est un traitement à part entière. Et que je sais que j'en ai pris minimum pour 10 ans, c'est difficile. Des effets secondaires aussi variés que ça. On a commencé il y a 6 mois en arrière, donc ça faisait 2 ans déjà que j'étais sous hormonothérapie. Et maintenant, on essaye une deuxième hormonothérapie. Parce que d'abord, on vous dit pas trop, mais finalement, vous comprenez que ouais, ce que j'ai eu, c'était quand même costaud. Donc vous dites, ok, d'accord. mais que vous ne trouvez pas finalement la solution miracle, parce que vous essayez un médicament et puis vous avez encore d'autres effets secondaires. Donc j'ai dit, bon bah ok, alors les insomnies, ok, les blocages articulaires, ok, les douleurs osseuses, tout d'un coup vous avez comme des décharges dans les os, mais ça ne dure pas longtemps, mais c'est 15-20 secondes, mais ça vous plie en deux tellement que c'est douloureux. Et là, au mois de février, j'ai commencé à avoir des douleurs abdominales. Donc là, j'ai dit, là, c'est trop, quoi. Je ne vais pas pouvoir vivre avec de douleurs abdominales comme ça. Ça fait qu'un mois qu'elles sont arrêtées, ces douleurs abdominales. Donc, j'ai réessayé un deuxième, une autre hormonothérapie. J'ai essayé un mois, mais ce n'était pas mieux au niveau des effets secondaires. Donc là, pour l'instant, je revis un peu. Donc, il y a toujours ces insomnies, ces douleurs articulaires. Mais c'est un moindre mal par rapport à tous les autres effets secondaires que j'ai. Et là, on laisse passer encore un petit peu de temps avant d'essayer encore une troisième, en espérant que celle-ci, je la supporte. Mais pour moi, c'est inconcevable de ne pas avoir d'hormonothérapie, sachant qu'il y a quand même un risque de récidive. Je pourrais pas prendre ce risque et puis me dire, bon, bah, et si je l'avais pris ? Par rapport à tout ce qui est tabou, bah c'est tous ces effets secondaires qu'on n'ose pas forcément se plaindre, parce que pourquoi je me plaindrais, je suis en vie. Mais en même temps, mon quotidien est difficile à vivre. Hein. Quand on parle des sautes d'humeur d'une femme durant son cycle menstruel, bah, il faut comprendre qu'il y a aussi un lien quand on est sous hormonothérapie, parce que c'est pas évident. C'est vrai que désolée des fois auprès de mon mari et de mes enfants, parce que je suis beaucoup moins patiente qu'avant. Et y a tout ce qui est aussi relations intimes, parce que là maintenant, ça commence à me faire un peu souci quand on parle d'atrophie vaginale qui peut se produire plus tard. Il pourrait avoir sécheresse, enfin douleur au moment des rapports. Et là, je me dis, mais waouh, comment ça va se passer? Parce qu'une femme qui est ménopausée au moment où son corps se met en ménopause, donc déjà, elle est plus âgée que moi. Là, ça va faire 3 ans que j'ai pas eu de cycle. Donc avant l'hormonothérapie, j'étais à un stade comme une ménopause durant la chimiothérapie. Mais une femme où ça vient gentiment, ben voilà, le corps, il a le temps de s'habituer. Mais cette ménopause, elle est vraiment induite par des médicaments qui ont tous ces effets secondaires. Donc il y a éventuellement cette problématique future. Un autre souci, c'est au niveau osseux. Parce que ça fragilise les os, mais je ne suis pas en ostéoporose, mais en ostéopénie, donc le stade avant. Donc je me dis, waouh, 39 ans et je suis en ostéopénie. Donc là, c'est aussi compliqué, parce que je me dis, mais je n'ai pas envie de me casser en 1000 morceaux d'ici un laps de temps relativement court. Donc là, ça vous fait peur.
Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à celle que vous étiez au fond du fond, au plus bas du traitement ?
Bah, que je l'ai fait, que je suis toujours vivante, enfin 3 ans après. Donc là, maintenant, je regarde tout ce qui est derrière moi.
Et qu'est-ce que vous diriez à tous les proches de gens qui sont malades, qui ne savent pas forcément trouver les mots pour leur dire qu'ils sont là ?
Il n'y a pas forcément besoin de trouver des mots, juste une présence bienveillante. Parce que des fois, les mots, c'est ce qui pourrait faire le plus mal, s'ils sont mal dits ou qu'on n'est pas apte à entendre ce que l'autre a envie de nous passer comme message. Et puis, que dans les proches, ne pas hésiter à parler de leurs soucis. Parce que des copines n'osaient pas me dire, par exemple, quelque chose. On dit, ah, mais toi, ce que tu vis, c'est quand même... Je fais oui, mais ça me fait du bien aussi de voir que, déjà, un, il n'y a pas que moi. Et puis, d'entendre que d'autres traversent aussi certaines difficultés. D'être là et puis de pouvoir soutenir quelqu'un d'autre, ça nous centre sur autre chose. On a l'impression qu'il n'y a pas tout qui tourne autour de nous. J'ai fait un travail sur moi-même et ça m'a beaucoup aidée justement d'en parler. D'en
avec parler une psychologue où...
Oui, alors là, dès l'annonce de la maladie, j'avais pris rendez-vous avec une psychiatre pour déposer ce que je vivais. Donc ça, c'était important pour moi. Et d'en parler ouvertement, je pense que c'est ça, c'est qu'il ne faut pas en faire un tabou. J'aimerais éviter à la femme de demain de vivre tout ce que j'ai vécu. Ben justement, d'en parler, d'être consciente que ça peut nous arriver, ben je pense que c'est un petit cadeau qu'on peut faire, d'oser en parler.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise-Glace. Je suis Célia Héron. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum, avec l'aide de Marion Marchetti. Il a été monté par Adrien Samakiyablou. Merci également à l'association L'Aimant Rose pour son travail de prévention lié au cancer du sein. Pour découvrir tous les autres épisodes de Brise-Glace, rendez-vous sur la page letemps.ch/podcast ou sur vos applications d'écoute. Et puisque vous êtes encore là, j'en profite pour vous encourager à aller écouter Rafu, un podcast du temps qui fait mordre la poussière aux clichés qui collent au basque des sportives, proposé par Pascaline Sordet. À dans 15 jours!